le programme suggère que Monsieur Paolo Vanni fasse l'intervention. Nous avons appris qu'il est souffrant, mais rien d'inquiétant, nous dit-on. Donc, pas d'inquiétude. Maria Grazia a accepté de le remplacer au pied levier. On en remercie. Merci, Maria. Maria Grazia va nous présenter de Castiglione à Solferino, le rôle d'un livre sur la Croix-Rouge italienne. Maria Grazia est conservatrice au Musée international de la Croix-Rouge à Castiglione. Et elle va parler en français. Et elle, comme c'est la dernière intervenante de la journée, je crois que c'est important qu'on lui apporte toute notre attention et notre concentration. Maria, vous avez la parole.
Eh bien, merci. Je dois d'abord remercier Roger Durand pour nous avoir invités. Et je dois faire un remerciement très spécial. C'est à Madame Elisabeth Moignet qui m'a aidé beaucoup dans cette dans la traduction de cette intervention. Donc je la remercie beaucoup. Merci. Et bon, alors il est certain que la Croix-Rouge italienne est née de l'impulsion idéale issue des pages du récit d'Henri Dunant, écrit sur l'influence tragique de ce qu'il a ressenti à Castiglione. Le contexte historique à ce moment-là était très favorable aux idées humanitaires, fraternelles et surtout innovatrices pour l'époque. Elles sont universellement liées à la création de la Croix-Rouge. En Italie, mais ailleurs aussi, on est convaincu que cette idée, vues à la lumière du patriotisme naissant, ont été à l'origine du mouvement sanitaire des armées. L'horreur de la guerre décrite par Dunant dans les souvenirs et par la suite reprise dans les mémoires se développera dans un élan parallèle vers une poussée de l'esprit patriotique qui finalement amènera à l'unité de l'Italie. Ce parallélisme était acceptable par rapport à la situation historique et politique pour l'Italie. En effet, le cri de liberté, c'est aussi dans le civisme et le progrès. Un progrès qui démarre de la condition de bestialité vers celle du monde idéal et humanitaire, où finalement, les loups et l'agneau vivront ensemble dans une convivialité fraternelle et devant une justice supérieure. Pour reprendre ces fameux parallélismes, d'une part l'affranchissement, la barbarie et la servitude, et de l'autre la bonté et l'exaltation des dons reçus par l'homme, expliquent le succès de l'idée de la Croix-Rouge en Italie, ainsi que la raison pour laquelle l'âme des patriotes et de ces hommes de bonne volonté s'est enflammée. Et tout cela se vérifie dans les origines de l'œuvre de la Croix-Rouge. Mais il y a une interruption au moment des deux dates, 1882 et 1884, quand la Croix-Rouge italienne devient une institution de l'État. Et les principes d'indépendance, qu'est-il devenu? De ce fait, la Croix-Rouge italienne devient auxiliaire des forces armées, une sorte d'aide au mouvement sanitaire. Le déroulement des faits advenus en Italie, dès ce dramatique 24 juin 1959, date liée à la publication du souvenir, commence avec un point d'interrogation sur la date d'arrivée d'Henri Dunant à Castiglione. Henri Dunant est arrivé à Castiglione le soir du 24 ou le matin du 25 juin, comme on peut lire dans sa correspondance avec M. Georges Baumberger. Et son logement, c'était au palais Bondone Pastorio ou dans une auberge de la ville, comme on peut lire dans une des lettres à M. Rudolf Müller. Le professeur Vanni est d'accord avec Roger Durand que le fameux petit livre aurait dû s'intituler un souvenir de Castiglione. Parce que c'était cette ville, de mémoire indélébile, qui a poussé Henri Dunant à ses idées de fondation d'une Croix-Rouge. De 25 juin au 30 juin, Lorenzo Barzizza, prêtre de Castiglione, se distingua pour son œuvre d'assistance humanitaire en organisant 12 hôpitaux d'instance temporaire. Pour cet exploit, il reçoit de la main de Napoléon III la récompense de la Légion d'honneur. Ce qui est étrange, et il reste mystérieux, c'est que Henri Dunant ne parlera jamais de Lorenzo Barzizza. Au début du projet de la rédaction de l'histoire de la Croix-Rouge italienne, la discussion fut basée sur une interrogation concernant le précurseur italien d'Henri Dunant, Ferdinando Pallasciano. Il est vrai que la neutralité médico-scientifique de Pallasciano n'est pas celle du cœur et de la piété de Dunant. Malgré tout, on est convaincu qu'on ne peut pas écrire l'histoire de la Croix-Rouge internationale et italienne sans citer l'œuvre du grand chirurgien de Capua, Ferdinando Pallasciano, qui est étroitement lié à celle du chirurgien genevois d'origine piémontaise, Louis Appia. Entre janvier 61 et janvier 62, plusieurs réunions sont tenues à l'Accademia Pontaniana de Naples, où Ferdinando Pallasciano a propagé ses idées sur la neutralité. Il a même financé un concours pour la publication des 100 aphorismes de la chirurgie militaire. Le concours fut attribué au docteur De Vita et Appia. Ces aphorismes ont été publiés dans le manuel de chirurgie militaire. En novembre 62 sort le souvenir de Solferino. Paolo Vanni dit malicieusement « Ce petit livre, puis je le lis et plus je suis convaincu, plus je le lis, plus je suis convaincu qu'il représente l'évangile des volontaires de la Croix-Rouge. » Dans ces pages, il y a toutes les valeurs prophétiques de l'humanitarisme laïque mondial. Il y a le passé, le présent et le futur de la Croix-Rouge. Quand Dunant l'a rédigé, dans son esprit, il y avait déjà tous les dessins d'un monde civil, humain et utopique qui régnait la guerre et la violence. Dès novembre 63, sort à Milan le souvenir en italien, ouvrage traduit par Monsieur Zanetti. Cette édition a été oubliée dans la chronologie des différentes traductions citées dans la remarquable version imagée de l'édition du centenaire du 1928. Le professeur Cipolla, sociologue de l'Université de Bologne, communique qu'en 1854 serait sortie une autre édition italienne par l'éditeur Brigola, mais malheureusement elle reste introuvable. L'édition de Zanetti a été rééditée en 2009 par le professeur Vanni, qui en a fait don au président Durand et aux membres de l'association Henri Dunant Gustave Moynier lors de son voyage d'études à Castiglione et Solferino. En janvier 64, le docteur Cesare Castiglioni, figure du patriotisme de Crémone, lettré et scientifique, député au Parlement italien et aussi président de l'Association italienne médicale de Milan, a constitué une commission pour la formation d'une société de secours aux militaires blessés et malades en temps de guerre, selon les principes de la conférence préparatoire de Genève, octobre 63. Le comité milanais invite les 50 sections de l'association médicale italienne à suivre son exemple. En Italie, il ne fait aucun doute que la Croix-Rouge débute ainsi dans une conception médicale. En janvier 64, à Florence, Guido Corsini, tente la même association pour le secours aux militaires blessés, mais n'a pas la même chance de Castiglione à Milan. En effet, il met tout de même sur pied le premier comité provisoire de Florence. Comme Henri Dunant, il le cite dans le test « La charité internationale sur les champs de bataille ». Le 15 juin 64 est le jour de la naissance officielle du comité milanais de l'Association médicale italienne pour le secours aux blessés et malades en temps de guerre. Était née la Croix-Rouge italienne. Le roi Victor Emmanuel II reconnaît cette association et le prince Umberto en est le président honoraire. Le professeur Bani cite l'article 1 des statuts. Le but est de secourir les militaires blessés et malades en temps de guerre et de seconder par tous les moyens le service sanitaire de l'armée en temps de guerre. Et cite ensuite l'article 14. En temps de paix, on doit se préparer au temps de guerre. Le 11 décembre 1964, Florence devient la capitale d'Italie. Le même jour, il y a une réunion du comité de Milan de l'Association italienne pour le secours des militaires blessés ou malades en temps de guerre. Adoption du premier règlement. Il a été rapporté que d'autres comités de l'Association médicale italienne avaient répondu à l'appel du 15 juin 1964. Il y avait 15 comités, dont Bergame le premier, puis Brescia, Comme, Cremona, Ferrare, Florence, Monza. Le comité de Milan est divisé en 4 sections, chacune avec une fonction différente. La première, la collecte de fonds, la deuxième, la collecte d'objets, la troisième, le stockage d'aliments, la quatrième, la préparation du personnel médical et infirmière, des escadrons d'aide. Les dames n'ont pas pu participer à la quatrième section. Le 2 juillet 1866, après la bataille de Lissa dans l'Adriatique, où se sont battus l'Autriche et l'Italie, les premiers escadrons de la quatrième section partent Milan en forme 4. 900 personnes demandent d'y participer activement, dont 139 femmes avec le rôle d'infirmière. Mais 317 hommes à l'âge maximal de 40 ans sont sélectionnés. Les femmes sont exclues. Elles travailleront en collaboration avec le comité de Milan, mais pas comme infirmières. 25 mars 67, il y a la première réunion nationale de la Croix-Rouge italienne à Florence, capitale d'Italie, des 11 comités formés entre le 64 et le 67, dont Bergame, Bologne, Ferrara, Florence, Gênes, Milan, Monza, Naples, Padoue, Parme, Piacenza. En août 67, les premières tentatives de secours dans les domaines civils. Une épidémie de choléra se propage en toute l'Italie. Ce sont les premiers pas dans le travail social. Septembre 70, les troupes italiennes du général Cadorna attaquent l'armée papale du général Kosler et ouvre une brèche entre la Porta Pia et la Porta Salaria pour conquérir Rome. De ce moment commencent les grandes manœuvres qui vont aboutir à transférer le comité central de Milan à Rome. Le 2 juillet 1871, Rome est la nouvelle capitale d'Italie. La Croix-Rouge italienne est devenue une institution d'État. Les conclusions. Comme on voit, les rapports peuvent être divisés en deux parties. La première partie est l'âge de l'enthousiasme suscité par le souvenir qui est associé à la dynamique volontaire, l'horreur de la souffrance des victimes, à l'abattoir de la guerre et la ferveur patriotique. La deuxième porte sur la consolidation de l'institution dans son ensemble de la Croix-Rouge italienne. Il n'y a pas de guerre qui nous touche directement, mais des urgences civiles pour lesquelles la Croix-Rouge italienne a du mal à se déplacer. Cette deuxième partie peut être décrite comme la bureaucratisation de la Croix-Rouge. C'est dans la première partie que le souvenir est traduit et publié en Italie. Dans la deuxième partie, on l'oublie, tant et si bien que dans la cinquième conférence internationale de la Croix-Rouge à Rome, c'était le 1891, on se souvient à peine du nom. Lui sont attribuées 500 lire d'aide quand on a su qu'il vivait dans la misère. Ce que nous voulons avoir écrit est un coup d'œil sur ce que le souvenir de Solferino a réussi à produire en Italie. Il est certain qu'avec la bureaucratisation de la Croix-Rouge italienne, les idées fondamentales du souvenir ont été pliées à la diplomatie du gouvernement, mais peut-être pas seulement à celui de l'Italie. Ce que Paolo Vanni soutient est aussi certain. Le souvenir de Solferino est l'évangile des infirmières volontaires de la Croix-Rouge et comme les lectures, les études et les idées concernant l'évangile sont infinies, ainsi en est-il du souvenir. Paolo Vanni, dans ses nombreux articles et ses écrits, appelle le souvenir l'alpha et l'oméga de la Croix-Rouge. En effet, à son avis, dans le souvenir, c'est écrit tout le passé, le présent et même l'avenir de la Croix-Rouge pour les siècles à venir. Ce qu'aujourd'hui on appelle advocacy, Dunant l'avait deviné et prédit il y a 150 ans. Merci bien de votre attention.
De nous parler de ces valeurs prophétiques du monde humanitaire laïque mondial, si bien dit. Est-ce que, après toute cette inspiration, vous avez des questions pour Maria Grazia? Non? Alors, Maria, il y aura une petite question.
Puisque pendant la guerre de 66, c'est le temps de rappeler, il y a eu une ambulance Croix-Rouge sur le front garibaldien, qui était une ambulance de la Chiesa Valdese, donc c'est le temps de rappeler, elle n'était pas officielle, mais elle était envoyée par le comité de Milan quand même. Donc avant l'action d'un comité national, cette action régionale, et qui était inspirée par, enfin, mise en œuvre par les frères Martial.
Oui, je dois vous dire que l'intervention du professeur Vanni était beaucoup plus longue. Et quand on a travaillé dessus, je disais, mais on ne peut pas, il faut couper, mais ça c'est important, il faut les lire. Et puis, hier avant, on a dû vraiment couper pas mal, et je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'intervention écrite qu'on sera publiée. Merci.
Je tiens à remercier Maria Grazia parce que traduire le texte de quelqu'un et puis le présenter donc dans une langue, c'est pas le français, n'est pas sa langue, c'est déjà un très bel effort. Et puis il faut savoir que le professeur Vanni, je crois qu'il est physicien, n'est-ce pas,
il est chimiste. Chimiste
et il adore l'alchimie de la langue italienne.
Tout à fait.
Son italien n'est pas l'italien de monsieur et madame tout le monde. De sorte que tu me donnais un mot pour exprimer, tu disais qu'il était comment son italien?
Je ne rappelle plus.
Cryptique.
Oui.
Cryptique, hein,
c'est sa définition. Voilà. Je parle cryptiquement.
Voilà, c'est ça.
Alors, j'écris. C'est lui qui dit ça.
Comme vous savez, Maria est l'âme du Museo Internazionale La Croce Rossa à Castiglione et que vous y êtes tous et toutes les bienvenus. C'est une étape quasiment obligée pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire de la Croix-Rouge. J'aimerais juste aller un tout petit peu plus loin dans ce qu'a dit Guy Leconte. On se réjouit de lire l'article complet du professeur Vanille parce que l'expédition en 66, cette délégation de la Croix-Rouge qui va, donc, cette ambulance qui va un peu épauler les forces éparses de Garibaldi, c'est toute une aventure parce que Louis Appia et Georges Appia sont, je ne sais pas quels sont les autres membres, mais on a un peu l'impression, François pourra me corriger si je me trompe, que Louis Appia n'était pas exactement mandaté par le comité international et qu'il il y allait un peu de son propre chef, il accompagnait son frère
son
Georges.
Frère, il m'a demandé de venir,
voilà, c'est ça.
Il ne voulait pas venir, il était réticent parce qu'il avait une histoire des yeux et finalement son frère a tellement insisté qu'il est allé le rejoindre. Mais je crois qu'ils étaient quatre.
Voilà, ils ont fait un rapport, et puis ils ont même demandé à Garibaldi qui avait été blessé au talon, ils lui ont demandé une sorte de certificat, comme quoi ils avaient fait un bon travail, etc. On a encore ce document, et il y a là eu un épisode qui était haut en couleur, et qui est d'ailleurs assez le reflet de Louis Appia, qui était une sorte d'aventurier de la chirurgie.
Mais ils ont eu beaucoup à faire, ils n'ont pratiquement pas dormi pendant 48 heures, même plus, et les gens du pays leur ont aussi beaucoup aidé là-bas, à Bezzecca.
Bezzecca, c'était. Bezzecca. Oui, qui est de Bono, Bezzecca.
Là-bas aussi.
Hein. Oui.
Comme on aura l'occasion en février de parler des médecins et de la Fondation de la Croix-Rouge, on en saura plus. Mais peut-être que
Merci beaucoup. Juste une petite pointe peut-être à l'âme de la société en vie du nom Roger Durand. Vous avez dit, par les affirmations du professeur Vali, que dans l'édition en italien, l'édition de 1929 du Souvenir de Solferino, la première édition en italien du professeur Gérard
Zanetti n'est pas marquée.
Est-ce que cet oubli a été réparé depuis?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais, oui, je l'ai cette édition au musée et j'ai regardé et il n'y a pas.
Elle est exposée ici dans la vitrine.
Alors, oui, il n'y a pas. Oui, on va contrôler comme ça.
Non, mais dans une édition.
Ah oui.
Ensuite, monsieur.
Non, moi, juste une question en tant que dessinois et défenseur de la langue italienne ici. Est-ce que ça va si l'article sera publié en italien ou en français dans la...
Là, pardon,
l'article. Vous avez dit que la langue est riche et très
critique.
Voilà. Est-ce que l'article sera en français ou
Alors, je suis sûre que le professeur Vanille aurait préféré le faire en italien.
Tous les deux, mon capitaine.
Oui, on peut le faire tous les deux. Hola, merci bien.
Plaisir, arrêtons, on le publiera dans les deux. Là.
Merci bien. Merci bien.
Monsieur Mignon, François.
Merci, je n'avais pas demandé la parole. Mais deux choses. D'une part, cette traduction vers l'italien du monsieur Zanetti, elle a été rééditée dans un volume bilingue par le professeur Vanni, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est extrêmement utile pour les gens qui veulent exercer ou apprendre l'italien. Donc,
je te fais une précision, monsieur Vignon.
Au collège, elle a été rééditée. Donc, elle a bien été sortie de l'oubli dans ce sens-là. La réponse, la question maintenant qui a été soulevée par Roger sur la position du comité international par rapport à ces missions, à mon avis, elle est extrêmement limpide. les résolutions de la conférence d'octobre 1863 prévoyaient simplement l'échange des communications se fait provisoirement par les soins du comité de Genève. Donc le comité de Genève, le comité international, était au fond l'agent de liaison entre les comités nationaux, donc les Croix-Rouges nationales. Mais dans l'esprit du comité de Genève à l'époque, c'était clairement aux sociétés nationales qu'il appartenait de fonctionner en tant qu'auxiliaire des services de santé de leur armée, respectivement de soutenir, si leur pays n'était pas en guerre, les sociétés de secours des pays belligérants. Et le CICR, sous l'influence évidente de Gustave Moynier, qui préside depuis 1864, se tient très rigoureusement à cette attitude. C'est pour ça que quand le comité veut envoyer des délégués au Danemark, pour faire le lien avec un débat de ce matin, eh bien il se dit, nous ne pouvons pas le faire, il faut que ce soit la Croix-Rouge suisse qui le fasse, pas de chance, il n'y a pas de Croix-Rouge suisse, donc on va constituer une section locale de la Croix-Rouge à Genève, et puis c'est cette section locale qui, au fond, prendra la décision d'envoyer des délégués au Danemark. Et la réunion a lieu en mars 1864. Évidemment, on y retrouve les membres du comité de Genève, plus leurs amis qu'ils avaient tirés par la manche. Corinne Champonnière vous fera remarquer que c'était uniquement des messieurs, parce que c'était la mentalité de l'époque, ce qui est fort regrettable. Mais en vérité, c'était un peu les mêmes personnes au départ, ou en tout cas le même noyau, sauf que Moynier n'était pas là, c'est pas lui qui préside la réunion parce qu'il était au lit. Et puis on utilise au fond ce détour pour pouvoir envoyer des délégués en Danemark, qui sont effectivement le docteur Appia pour le côté allemand et le capitaine Van de Velde, pas Bastien, mais le capitaine Van de Velde, qui ira du côté danois. Et le CICR utilise, bien sûr, ce qu'ils apprennent en publiant dans un volume qui sera mis à disposition de la conférence diplomatique de 1864. Le CICR publie le rapport. À mon avis, le CICR passe le plus possible sous silence l'expédition de Appia en 1866 et passe le plus possible sous silence les expéditions de Appia lors de la guerre de 1870, parce qu'aux yeux du CICR, Appia, en tant que membre du comité, n'avait pas à partir dans ce type d'expédition. Et puis la position du CICR est très clairement formulée dans un long document qui est intitulé « Lettre au professeur Hübner ». Ce Hübner, c'était un représentant de la Croix-Rouge russe, même si le nom ne sonne pas très russe, qui avait reçu mandat de conduire une grosse ambulance de la Croix-Rouge russe, voulait envoyer sur le front de la guerre franco-allemande, et puis il voulait venir à Genève et puis dire au CICR, ben voilà, je suis à votre service. Et puis il est très déçu, comme le CICR lui dit, écoutez, c'est très sympathique, mais nous, CICR, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité, parce que ce serait marcher sur les pieds des sociétés nationales. Donc le CICR de l'époque, à mon avis, il n'envisage pas du tout d'avoir, lui, un rôle autonome qui se substituerait ou qui empiéterait sur le domaine d'activité des sociétés nationales. C'est pour ça que dans la documentation, en tout cas la documentation publiée par le CICR, ces expéditions du docteur Appia, je suis désolé pour les descendants Appia, mais on en parle le moins possible d'une chose qui aurait lieu, à mon avis, à une débit. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions?
Je remercie François, c'était très important que je vous rappelle ce contexte qui montre maintenant les choses. Mais quand vous êtes au Moynier, dans une de ses communications, il cite la fameuse phrase de La Fontaine sur la mouche du coche, n'est-ce pas? Donc, il dit ces gens qui croient faire les importants et qui, partout se mêlant des affaires qui ne les regardent pas, partout devraient être chassés. Donc, en vérité, ça montre bien que dans son fort intérieur, même s'il avait une immense amitié pour Appia, qui a été le fidèle compagnon pendant 30 ans,
En vérité, il n'était pas enthousiaste à ces expéditions. Et alors, le 11 octobre dernier, nous avions organisé une visite des archives du CICN j'avais trouvé, grâce à M. Benzi, une lettre d'Apia, il n'y en a pas beaucoup de lettres d'Apia, mais une lettre de 4 pages, d'annonce, etc., où il passe son temps à faire soumission à Moynier. Il lui dit, mon cher président, je me soumets. Vous avez raison. Ce n'est pas un chirurgien de guerre qu'on va rappeler son devoir d'obéissance. Et c'est une lettre absolument extraordinaire où, sur 4 pages, Appia dit à Moynier que oui, il va obéir, que oui, c'est son rôle d'obéir, que oui, c'est le rôle du président de donner des ordres, etc. Et ça c'est une dérision, finalement, de ce pouvoir hiérarchique. Et je suis presque sûr que c'est une réponse d'Appia à une lettre de Moynier qui n'était pas du tout content de pouvoir partir par-ci, par-là, etc. Et je vous promets, je me réjouis de cette biographie qu'on prépare avec Yvette sur Appia, et cette lettre-là, on l'a publiée pas intégralement. Et ça nous montre que ces 5 fondateurs, c'était vraiment 5 personnalités. Il n'y avait pas les 4 contres du nom. Il n'y avait pas des clans. Ils étaient les 5, c'était des tronches, n'est-ce pas? Et on a aussi vu une lettre de Mounoir à Moynier, une lettre de Mounoir où Mounoir dit très clairement. Je ne partage pas votre avis au sujet de la stratégie de Dunant en France. Dunant a raison de s'adresser à l'administration impériale. Donc, et Mounoir l'écrit à Moynier. Hein, donc, et c'était resté. Donc, on a une dynamique entre ces hommes qui est beaucoup plus forte que l'image qu'on en a aujourd'hui de messieurs très bien rangés, d'un groupe très, très compact. Et quand on lit les PV du CICR, qui ont été donc établis par Jean-François Piclou et édités par le CICR, la Société des Rues du Nord, il y a des exemplaires très bon marché en vente là-bas, et bien vous verrez qu'on a un reflet de la vie de ce comité international, donc 1863-1914, extrêmement dense, et on voit qu'il n'évite pas les problèmes, il n'esquive pas les comptes rendus un tout petit peu tendus, bref, ce sont des décideurs en action. Et c'est bon de le rappeler, alors qu'on peut avoir l'image d'un groupe de grands bourgeois compassés, etc., etc. Pas du tout, ce sont des hommes d'action, ce sont des hommes de caractère, et on se réjouit donc de vous présenter à Pierre et Mounoine prochainement.
Bien. Merci. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, le temps est venu de remercier les orateurs de la journée tout entière et tous ceux qui se préparent pour demain. Après toutes ces nourritures pour l'esprit, je crois que certains vont rejoindre leur foyer et d'autres vont aller vers des nourritures terrestres ce soir. Je pense que je vais vous montrer quelque chose. En général, pour applaudir, on fait ça. Mais il y a une façon d'applaudir pour remercier les orateurs, c'est de faire ça. Et je voudrais vous faire ça à tous, parce que ce que vous nous apportez, c'est beaucoup d'intelligence et beaucoup de réflexion. Alors à tous, merci.
Merci.